Voilà, bienvenue pour cette table ronde intitulée « Quelles innovations pour répondre aux grands enjeux de l'enseignement supérieur qui vont de la diversification des publics, du sujet de la démocratisation à l'ouverture de la formation tout au long de la vie également, l'internationalisation, la concurrence entre établissements, sans parler de la concurrence des nouvelles formes, des nouvelles offres d'éducation ou des nouveaux types d'acteurs. Olivier Diens, hier, en a cité quelques-uns. Petite présentation des intervenantes et de l'intervenant Sylvie Blanco, qui est professeure à Grenoble École de Management au sein du département Management et Technologie. Vous avez coordonné un ouvrage chez Duno qui s'appelle Management de l'innovation. Et puis, vous avez fondé et vous dirigez le campus GEM BIS, GEM comme Grenoble École de Management, et la plateforme pédagogique Plexus. Vous nous en direz un petit peu plus, peut-être tout à l'heure. Véronique Hélène, vous êtes la fondatrice et la doyenne de la Paris D School à l'école des Ponts. C'est un projet IDEFI. Et donc vous êtes une spécialiste de ce qu'on appelle le design thinking, que vous avez travaillé précédemment à Stanford. Et vous avez également commis un livre, 101 repères pour innover. Sophie Penn, vous êtes professeure à Paris Descartes, dont vous avez été vice-présidente, en charge de la pédagogie numérique. Voilà. Et vous êtes vice-présidente toujours du Conseil national du numérique, c'est ça? Co-dirigez-vous toujours le master EdTech, voilà, qui forme des entrepreneurs de l'éducation. François Taddeï, vous êtes polytechnicien, biologiste, chercheur à l'INSERM en biologie des systèmes. Vous avez également cofondé le CRI. Vous poussez un grand CRI. Hein, régulièrement, que vous dirigez le centre de recherche interdisciplinaire et vous êtes porteur du projet IDEFI IFR, inauguré en 2012. Vous avez beaucoup d'activités, vous êtes en France et ailleurs, vous aidez les Chinois à bâtir une université du futur. Je vous propose donc à tous de répondre à une première question et puis ensuite d'échanger tout de suite avec la salle. Une question simple pour vous. Voilà. Donc Sophie Penn, si on vous dit, dites-nous à votre avis, à quoi ressemblera la pédagogie, les dispositifs demain, mais vraiment demain, qui ne serait pas, on oublie les freins, on oublie les contraintes, on oublie les paradigmes. Qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça devrait être selon vous?
Alors, si je me mets dans l'optique d'une évolution constante des technologies, qui fait que ce qu'on est en train d'essayer d'absorber en ce moment, c'est quelque chose, mais c'est sûrement peu de choses. Donc si on se met à 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait rien de la façon dont les technologies transformeront, ou pas, mais sûrement beaucoup, la diffusion, l'usage, le partage des savoirs. Et on est en ce moment pris entre une question qui va sûrement devenir de plus en plus forte, la marchandisation des savoirs et leur fermeture, et puis les communs. Donc si je me mets dans une situation comme ça utopique et rêvée, l'université est au cœur de la société. Elle est l'opérateur de la transformation de la société pour une société plus juste et plus ouverte sur la question centrale des savoirs. Et des tas de gens prennent soin d'elle à l'extérieur. Le tiers secteur, les associations qui développent l'économie du partage, les scientifiques des sciences participatives, les entreprises, les villes qui sont devenues des territoires apprenants et les universités ont débordé depuis longtemps sur les villes et sur les tiers-lieux. Et dans les universités, on ne vient pas écouter des cours, on vient vivre une expérience de vie, de socialisation, de recherche, de projet, d'entrepreneuriat. Et c'est l'université qui pilote enfin l'économie de la connaissance.
Pas mal, merci.
Ah oui,
Sylvie Blanco.
Pas mal du tout. Donc, dans GEM BIS, en fait, ce qui était important, ce n'était pas GEM, c'était BIS. BIS voulant dire deux, c'est-à-dire qu'on construit un nouveau campus pour lequel on s'est pas mal interrogé sur ce que pouvait être. Alors, quand je dis un campus, c'est un site, hein, c'est un bâtiment, c'est 2500 mètres carrés, mais c'est déjà ça. Qui pourrait préfigurer le futur. Et BIS, en fait, veut dire Business Innovation for Society. Donc j'adhère complètement déjà à cette dimension sociétale. Alors pour faire ça, on a fait des benchmarks, des learning expeditions, tout un tas de choses, notamment dans le cadre d'un PIA qui s'appelle l'IRT, l'Institut de Recherche Technologique NanoElec. Et on a dégagé quatre orientations qui peuvent nous permettre de dessiner un campus un peu futuriste, mais enfin il y a quand même des prémices aujourd'hui. D'abord, c'est une logique d'écosystème. On fédère les étudiants, les profs, les chercheurs, les entreprises autour de la fabrication de démonstrateurs avec une fluidité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est dans quelle discipline et une mobilité des étudiants notamment qui est juste extraordinaire. Donc on verrait bien des universités jalonnées par ces démonstrateurs. Ensuite, il y a une vraie logique de communauté. C'est-à-dire que nous, on adresse des étudiants, à la limite, on adresse des équipes d'étudiants. Ce qu'on voit vraiment poindre, c'est, vous êtes client de Google sans le savoir, tout le monde est client de Google, c'est terrifiant. Les universités, il y a un peu cette logique de communauté. Dès que vous avez mis le doigt dans un truc, genre un hackathon, un crowdsourcing ou un crowd cela, vous êtes étudiant. Le tout, c'est de vous emmener, c'est d'emmener chacun le plus loin possible. Alors il y a un faire rêver et puis être acteur de ce changement qui est très très important dans cette philosophie. Après, il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler hier matin là, avec la présentation d'Olivier Dien, c'est le levier technologique et l'omniprésence de la technologie, mais comme étant quelque chose à travailler. Alors, il y a un hype cycle de l'éducation. Donc, quand on voit les technologies qui arrivent dans l'éducation, ça interpelle vraiment, mais c'est plutôt une opportunité. Donc, il y a une ouverture des labos qui est immense et beaucoup plus immense qu'aujourd'hui. Les étudiants circulent dans les labos de recherche et ils contribuent à apporter une vision, des idées. Et puis, les étudiants utilisent tout naturellement les technologies. On se pose aujourd'hui des questions sur l'intégration des technologies du numérique. Ils les utilisent. Après, il faut accompagner cette utilisation, mais ils les utilisent. Et puis, la dernière chose, c'est l'appropriation des lieux, des espaces physiques. Ils sont chez eux pour apprendre, mais ce sont aussi des lieux de vie, des lieux de socialisation, des lieux de détente et de bien-être. Et tout ça m'emmène vers voir l'université comme une plateforme physique et virtuelle qui soit vraiment partagée et la propriété de tous.
Merci Véronique Hélène.
Je pense que ma collègue représente sûrement le rêve de l'étape que j'aimerais bien aboutir, parce qu'en région parisienne, pour l'instant, moi, j'en suis pas encore exactement là. Je suis professeure de stratégie et professeure d'innovation depuis plus de 20 ans. Donc, les enjeux que moi, je vois, c'est surtout des enjeux liés aux entreprises, les enjeux des problèmes liés à l'environnement, à la société. Et à chaque fois, ce type d'enjeux représentent des problèmes qui sont mal définis. On appelle même ça, dans notre jargon, des problèmes super méchants, des problèmes pourris, c'est-à-dire que finalement, la façon traditionnelle de résoudre nos problèmes, qui est plus on analyse, mieux on aura une compréhension de ce problème et mieux on sera apte à pouvoir générer des solutions à ce problème, eh ben, cette logique ne marche pas. Parce que plus on analyse des fois des problèmes liés au développement durable, moins on comprend. Ce sont des problèmes qui sont complexes, interconnectés, et donc on appelle ça des problèmes super méchants. Donc pourquoi moi je suis allée au design thinking, c'est que c'est une logique qui est une logique tout aussi rationnelle que la logique cartésienne, mais qui est très différente. On va essayer finalement de mettre l'élève en situation sur des problèmes qui sont mal posés, de telle façon qu'il analyse un petit peu quand même, et puis surtout on reste français, mais il va trouver et il va générer et il va créer des solutions concrètes, donc faire quelque chose d'utile pour quelqu'un dans un contexte donné, c'est un petit peu notre mantra, qui fait qu'il prend confiance en lui, dans sa capacité de voir ce qu'il faut faire et de résoudre ce problème d'une façon concrète, que ça soit une heure de cours ou un an à temps plein sur un master. Donc ça, c'est un petit peu notre traité pédagogique dans les grandes lignes. Et ça remet en cause finalement beaucoup le paradigme traditionnel éducatif. Donc si on peut en souligner quelques points, bon, déjà il faut mettre l'étudiant dans le cadre d'une expérience réelle. Et évidemment, donc, se pose la question de la définition des projets, et ça, c'est toujours en fait très difficile. Ça remet en cause le paradigme de compétences dominant qui est lié au savoir, puisqu'on va lui demander en fait finalement de mobiliser des savoir-être et des savoir-faire très précis. Il faut aussi créer les conditions d'apprentissage. Donc, en effet, ça demande un lieu physique, un lieu numérique, tout un écosystème, une communauté qui est des fois bien plus mobilisante et difficile à mettre en place qu'une salle de cours. Et donc ça demande en effet un certain nombre de conditions un petit peu différentes. Ça remet en cause le rôle du professeur, ça remet en cause le système d'évaluation, puisqu'on ne va pas évaluer l'élève d'une façon individuelle, mais d'une façon collective. Et au niveau individuel, on ne va pas regarder s'il a trouvé la bonne solution au problème bien défini, mais s'il a trouvé en fait une solution appropriée au contexte donné, et surtout s'il est capable de générer, ce qui est des fois difficile sur nos publics, ce qu'on appelle une réflexivité, une capacité de réfléchir à son action et à l'améliorer en fait dans le futur. Et puis, last but not least, comme on dit en anglais, le dernier point, c'est qu'en termes de, pour un professeur, c'est important de faire de la recherche sur sa pédagogie en permanence, parce que c'est la seule et unique façon d'améliorer sa pratique, c'est la seule et unique façon de finalement observer le comportement de ses étudiants et de l'adapter en fait au fur et à mesure de sa pédagogie. Donc nous, la mission de la DISCHOOL, pour l'instant, on l'a déployée au niveau des cours, au niveau d'un master à temps plein sur une année. On essaye d'accompagner les professeurs qui veulent transformer leur pédagogie avec ce type de pédagogie. Et on rêverait donc de faire un petit peu la même chose qu'à Grenoble, c'est-à-dire d'être plutôt au niveau de l'université, donc de passer à la vitesse supérieure.
Merci. Alors, je peux déjà vous dire, le temps que François Taddeï prenne le micro, que je pense que vous devez avoir des tonnes de questions. Sinon, j'en ai. Hein. Donc, François Taddeï.
Alors, à la fois, ce qu'on dit est assez révolutionnaire, et en même temps, quelqu'un comme Humboldt, il y a 200 ans, disait que l'université devrait être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche, et où on doit pouvoir trouver, quand on est étudiant, des mentors qui accompagnent de manière bienveillante le projet de l'étudiant plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, à la fois, conceptuellement, on voit qu'il y a une longue tradition, et elle n'a pas toujours été développée autant qu'elle l'aurait pu l'être dans le passé. Ce qui est vrai, c'est que le numérique permet d'apprendre ce qu'on veut, de transmettre la connaissance qu'on veut, éventuellement de contribuer à la recherche avec des projets de sciences participatives, par exemple. Par contre, ce qui manque toujours sur le web, c'est la qualité du mentorat. D'accord ? Et donc ça, je pense que c'est un des aspects clés de l'université, hier, aujourd'hui et demain. En même temps, je pense qu'on a toujours plus besoin de faire changer tout ça, non seulement parce que le numérique est un moyen, mais c'est aussi quelque chose qui change si profondément la société que si on ne prépare pas nos étudiants à ça, hein, on nous annonce qu'une bonne partie des métiers qui existent aujourd'hui auront disparu dans les 10 ans ou 20 ans maximum. Et pendant ce temps-là, on voit les technologies progresser de manière exponentielle. Hein, ces prédictions ont été faites avant les derniers résultats d'AlphaGo, que vous connaissez tous probablement, où l'intelligence artificielle a progressé en un an plus que ce que les chercheurs imaginaient en 10 ans. D'accord ? Donc il y a vraiment une transition qui s'annonce où ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant n'est probablement rien par rapport à ce qui s'annonce. Et donc comment est-ce qu'on forme nos étudiants à ça ? Je pense qu'il faut s'interroger sur différentes formes d'intelligence en fait. Donc il y a évidemment la forme d'intelligence de l'homme et de la machine. C'est quoi le propre de l'homme ? On peut se poser ce genre de questions, sachant que la machine progresse régulièrement. Ça, c'est un premier aspect. Ce que je dirais sur... j'ai un ami qui était conseiller de Tony Blair qui lui, définit trois formes d'intelligence. La première, pour lui, c'est la capacité à connaître les solutions d'hier. Hein, typiquement, notre système éducatif est très basé sur notre capacité à connaître les solutions d'hier. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les machines ont l'ensemble des solutions d'hier en mémoire. Et donc, si on ne connaît rien d'autre que les solutions d'hier, il n'est pas évident qu'on puisse trouver un emploi demain. La deuxième forme d'intelligence, c'est la capacité à trouver une solution innovante à un problème qui nous a été posé. Donc c'est en partie ce qui vient de nous être décrit. Mais la troisième forme d'intelligence, c'est la capacité à redéfinir soi-même un problème. Et quand on est face à un problème méchant, c'est ça que tu disais, super méchant, est-ce qu'on peut le dompter ? Est-ce qu'on peut apprendre à
le rendre un peu gentil ?
Et à apporter des choses qui sont typiquement en dehors des capacités des machines, en tout cas aujourd'hui, et même des individus seuls. Et donc comment est-ce qu'on apprend à coopérer, comment est-ce qu'on apprend à créer, comment on apprend à communiquer les uns avec les autres, face à face et également à distance, comment on apprend à faire une critique constructive, comment on apprend la complexité du monde. Je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on transmette à nos étudiants si on veut les préparer au monde de demain. Et en même temps, on voit bien que ce n'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et donc, il faut progressivement augmenter le nombre de degrés de liberté qu'on donne à la fois aux enseignants et aux étudiants pour explorer ensemble ces futurs et fondamentalement les construire. La meilleure manière de prédire le futur, c'est encore de l'inventer. Et donc, il faut qu'on invite nos étudiants à s'impliquer dans un monde dans lequel il y a des problèmes super méchants. Hein, les Nations Unies ont défini 17 grands défis, hein, les objectifs du développement durable. Et si on a des étudiants qui veulent s'intéresser à ces défis, eh bien, il faut qu'on puisse les accompagner. On en discute en ce moment avec l'UNESCO de créer un label où les universités qui veulent accompagner leurs étudiants à attaquer des problèmes super méchants liés à l'avenir de la planète ont le droit de le faire, et ils vont trouver dans les universités un accompagnement de qualité avec la possibilité de prendre éventuellement des cours dans différentes disciplines, parce qu'il n'y a pas une seule discipline qui va résoudre l'ensemble des problèmes du monde. Ça, je pense que toute personne qui penserait ça de sa propre discipline, à mon avis, il faudrait interroger sa capacité à vraiment délivrer ce genre de choses. Je pense qu'on a besoin de permettre aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants de faire communauté et d'inviter l'ensemble de la société dans ce process. Et donc je reviens sur ce que disait Sophie. Fondamentalement, l'université doit s'ouvrir à l'ensemble de la société, et en fait on doit viser à ce que la France et même la planète deviennent un campus, c'est-à-dire un environnement dans lequel tout le monde peut apprendre, tout le monde peut contribuer à transmettre ce qu'il a appris, et tout le monde peut co-construire une partie des solutions de demain.
Ça, c'est ce que vous aviez déroulé dans une intervention précédente sur la logique d'agrégation via le web de modules de connaissances et de parcours pouvant éventuellement être certifiés et dans lesquels chacun pourrait à la fois auquel chacun pourrait contribuer et pourrait rentrer pour sortir avec une certification.
Tout à fait. Je pense qu'on peut aller, vous connaissez tous les diplômes tels qu'ils existent, imaginez un diplôme blanc. Alors les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est comme une page blanche ou une ANR blanche, c'est-à-dire que il n'est pas prédéfini ce que vous allez faire. Et dans le cadre d'un diplôme blanc, l'étudiant s'intéresserait à différents sujets, il pourrait faire valider ECTS par ECTS dans éventuellement des process relativement classiques. On peut en imaginer en VAE et d'autres manières via des MOOC et autres. Mais bon, il pourrait prendre un certain nombre de modules et définir un projet et demander une évaluation par des mentors bienveillants, éventuellement de disciplines différentes, qui pourraient s'assurer que du point de vue des différentes disciplines que l'étudiant a traitées ou qu'il a dû mobiliser pour attaquer le défi qu'il a choisi de relever, il pourrait contribuer à évaluer ce qu'il fait. Et si tout ça s'est documenté en ligne, systématiquement, ça fait un open portfolio dans lequel toute personne qui veut vérifier ce qu'a fait cet étudiant, y compris ses futurs employeurs ou ses futurs collègues, peuvent le faire. Mais ça permet aussi, puisque cet étudiant a documenté un parcours original, de faire que si d'autres étudiants veulent faire la même chose, alors ils pourront s'inspirer de tout ou partie de ce parcours original. Et donc si on arrive à créer ça, on crée ce que moi j'ai tendance à appeler des écosystèmes d'apprentissage coopératif, c'est-à-dire des écosystèmes où dès quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre doit pouvoir apprendre la même chose plus facilement. Dès quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre doit pouvoir innover plus facilement.
Pourquoi plus facilement ?
Plus facilement parce qu'on a documenté le process, et donc celui qui veut s'inspirer de ça peut le faire plus facilement.
Merci. Jean de Saint-Guilhem, je suis allé GENR, j'ai piloté une mission sur le design et aujourd'hui une mission sur les universités numériques thématiques. Donc moi je partage évidemment tout ce qui a été dit avec une seule observation, c'est ça concerne des établissements ou des parties d'universités de luxe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté quand même à une massification de l'enseignement supérieur, à une grande incertitude, comme l'a dit Sophie Penn, sur les évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides, dont certaines ont une influence directe sur l'enseignement, d'autres pas. Et en fait, on ne sait pas lesquelles vont avoir une influence très, très forte. C'est les problèmes super méchants qu'évoque Véronique Hélène. C'est-à-dire c'est les problèmes non seulement auxquels on ne sait pas répondre, mais qu'on ne sait même pas cerner. Donc aujourd'hui, ma question, elle est très simple, c'est quel est le chemin critique, parce que je pense que c'est ça qui est important pour la plupart des universités aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de se payer un Fab Lab, qui n'ont pas les moyens de faire du learning by doing avec un grand nombre d'étudiants pour effectivement expérimenter les savoir-faire. Donc quelles sont les innovations aujourd'hui numériques qui vous paraissent les plus simples à mettre en œuvre pour faire progresser la pédagogie ? Alors, c'est une question très large, mais...
Je veux bien répondre en fait à cette question. Je me sens particulièrement concernée puisque finalement j'ai commencé avec un programme de luxe qui était en coopération avec Stanford et qui était financé à 100% par les entreprises. Et toute la réflexion que j'ai depuis 2012, c'est comment réussir à démocratiser, à mettre au plus grand nombre les ressources, les pédagogies. Alors, je suis extrêmement déçue d'avoir perdu IDEFI numérique, parce que c'était exactement, en fait, l'idée. C'était de pouvoir... Ce qui est difficile, en fait, pour un apprentissage expérientiel, c'est comment on réussit à utiliser au maximum les outils numériques pour conserver, en fait, la qualité de l'apprentissage expérientiel. Et je pense qu'on avait trouvé, en fait, une solution, enfin, une ingénierie pédagogique extrêmement maligne, et qui correspondait quand même avec une 25% de mentoring sur une forme originale. Malheureusement, en fait, on a perdu, et ça demande quand même, en fait, un certain nombre d'investissements. Enfin, globalement, le numérique peut démocratiser, peut vraiment mettre accès au plus grand nombre, beaucoup de ressources pédagogiques, et les professeurs, enseignants, chercheurs, enfin, sont tous, enfin, en tout cas, nous, tout ce qu'on a testé, c'est des vrais enseignants, c'est des vrais. Donc, du coup, ils arrivent, en fait, à utiliser nos matériaux. Mais après, ça demande quand même un investissement, en fait, de base qui est pas forcément facile, et de garder, en fait, une qualité de mentoring, même à travers le numérique, parce qu'on reste sur des apprentissages expérientiels. Donc, notre plateforme, avec un certain nombre de ressources pédagogiques mises à disposition de tout professeur qui a envie, en fait, de l'utiliser, va être lancée dans les 6 prochains mois. Mais c'est une version très, très, très dégradée par rapport à ce qu'on pourrait faire si on avait eu juste un tout petit peu plus de moyens. Mais en effet, c'est un vrai enjeu que vous dites, parce que à l'échelle du campus, et vous pouvez sûrement en parler, c'est un vrai enjeu.
Didier Paquelin.
Oui, je fais l'écho de quelques tweets. Mais dans la suite de l'intervention...
Synthèse des tweets que vous produisez questions.
Qui vient d'être faite. C'est vrai que ce qui est exprimé ici, c'est un monde très, très vertueux. Et comme disent certaines personnes, dont un qui est dans la salle, personne n'est contre la vertu. Et ça, bien sûr, la question qui est quand même posée, c'est comment, pour reprendre ce qui a été dit, mais je pense que ça vous permet d'aller plus loin, c'est comment, je veux dire, toutes ces dynamiques-là peuvent-elles concrètement, je veux dire, participer de cette logique d'inclusion qui a été évoquée à plusieurs reprises, et dans une logique d'innovation frugale qui suppose pas forcément de très très grands moyens. Et la question peut-être qui pourrait être posée, c'est comment mettre en mouvement l'organisation actuelle pour produire des micro-histoires à succès qui petit à petit, et dans une durée et dans une temporalité qui serait à accepter suffisante, et comment dire, dans laquelle le risque serait aussi un modèle d'action, les choses pourraient être mises en place.
Merci. Je vais rebondir sur la réponse précédente et puis ces commentaires. On n'est pas une institution riche non plus, très loin de là. Hein, nos ressources, il faut qu'on aille les chercher. On a 1% de notre budget qui nous est apporté par notre chambre de commerce, et c'est à peu près tout. Donc on n'est pas riche, on va aller chercher nos ressources. La façon là de procéder pour construire cette plateforme, on a eu des investissements qu'on n'a plus. D'accord ? Donc on est obligé d'aller chercher. D'abord, il faut avoir en tête qu'il y a une vraie valeur dans ce qu'on est en train de faire, qui est une valeur pédagogique, une valeur de formation. Mais il y a un énorme enjeu. Alors nous, on en a identifié 2 là où on est à Grenoble. Il y a un enjeu d'attractivité territoriale. Et aujourd'hui, la formation est vraiment perçue par beaucoup d'acteurs comme un vecteur très fort d'attractivité territoriale, de faire en sorte qu'il y ait une dynamique local, qui est du mouvement de la jeunesse. C'est quand même très important. Et puis, c'est aussi, la formation est perçue comme ce lieu décalé, notamment par les entreprises, ce lieu décalé dans lequel on va pouvoir tester des choses en vue de notre transformation. Donc la formation est potentiellement vue comme un accélérateur de transformation. Alors nous, dans tout ce panorama, on a identifié un problème méchant, mais qui est le nôtre, qu'on connaît depuis longtemps, sur lequel on a certaines ressources, certaines compétences très distinctives. Moi, je suis dans le défaire management de la technologie, mais l'école a été créée par l'écosystème local d'innovation et de technologie. On se connaît depuis très longtemps, et on a depuis très longtemps le même problème, qui est un énorme gâchis. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans la technologie, on a un gros problème de transformation en valeur économique, évidemment, mais sociale. Social, sociétal et territorial. Donc ce problème, ça fait 30 ans qu'on essaye d'y travailler. Et il y a toujours un énorme gâchis, et il y a toujours et de plus en plus une invasion de technologies qui viennent de l'extérieur, ce qui est encore plus dommageable. Donc nous, c'est ce problème-là qu'on attaque. Et l'idée derrière, c'est de faire en mode petites expérimentations, du recyclage. On recycle beaucoup et on va recycler de plus en plus de choses qui existent dans les entreprises, mais aussi dans les labos. On va mettre très probablement, je m'engage un peu, mais on va le faire, des nanosatellites sur notre plateforme. Des nanosatellites qui ont été prototypés dans un Fab Lab à l'université. Donc par des étudiants, ingénieurs, des designers participent à l'opération. Et puis nous, on se dit, bah, il faut que ça circule, ces objets-là. Ça a une valeur de dingue. Et nous, on va essayer de créer des expériences, des parcours pour inviter la société, pour inviter des entreprises, pour sensibiliser au fait que ben, un nanosatellite, il y a tout un tas d'applications.
Ça sert à quoi un nanosatellite
à observer la Terre, par exemple. Donc, les, par exemple, les métiers de l'assurance, les métiers de l'assurance, ils adorent les nanosatellites parce qu'ils vont pouvoir réviser la façon dont ils vous facturent avec les nanosatellites. C'est-à-dire qu'ils vont savoir à peu près tout ce que vous faites en temps réel. Donc si vous n'avez pas bien pris vos médicaments, ils vous facturent. Si vous avez mangé trop gras, ils vous facturent. Et si vous prenez des routes trop dangereuses, ils vous facturent.
Voilà. C'est pas grave, parce que de toute façon, comme on vivra dans un monde totalement virtuel, l'accident sera sans conséquence.
Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de rendre ce genre de technologie un peu plus jouable, accessible, immersive. Et puis d'avoir un premier impact de cette façon-là. Et peut-être que de cette façon-là, on attirera plus de ressources, entre autres financières.
Sophie Penn.
Alors, personne ne déteste la vertu. Bon, quand on s'adresse à l'ESR, il n'y a pas que de la vertu. Et l'expression ESR, on a l'impression que c'est une sorte d'énorme espace unifié. Et on voit bien qu'il y a des asymétries qui font un environnement très tribal. Bon, on parlait des IDFI tout à l'heure. Il y a des équipes qui se sont en quelque sorte spécialisées dans les aubaines successives. Et souvent, elles cumulent d'une façon ou d'autre. Et puis, il y a des zones de l'université qui se sont dit, moi, je joue pas, je là, je veux juste faire mon travail et je considère que mon employeur doit me donner les ressources pour travailler et je ne vais pas courir tout le temps comme ça. Et de ce fait, on a, et puis il y a d'autres, ça ne recoupe pas toutes les asymétries, il y a aussi des attitudes face au web, face au numérique, face aux transformations sociales profondes, transformation des pouvoirs, des savoirs qu'évoquait François, transformations très fortes qui mettent en cause effectivement nos postures, comme le disait Sophie. Et là, il y a des profs, les profs réagissent très différemment. Vous avez dans les universités des poches d'émergence où cette pluralité des savoirs, ben, elle touche beaucoup d'enseignants qui se disent « mais c'est exactement comme ça que les sciences se sont construites », dans une confusion avec les savoirs ordinaires, la grande collecte des savoirs par les médecins, les marchands, etc. Puis il y en a d'autres qui disent « stop, l'université des Lumières est passée par là, Kuhn est passée par là, je sais ce que c'est qu'une expérience, une preuve, et je refuse cette symétrisation des savoirs qui me dévalue. » Et il y a des poches énormes dans l'université où les gens se sont rétractés et considèrent le web comme une sorte de concurrent déloyal qui transforme le savoir en connerie, la connerie en savoir, etc. Et ce drame culturel, on le vit très profondément quand même. Donc ce que je pense, c'est que un Fab Lab, parlons fric, un Fab Lab, c'est rien dans le budget d'une université. Il n'y a aucune université qui ne puisse ouvrir 5 ou 10 Fab Labs. En machine, l'intérieur d'un Fab Lab, c'est 20 000 euros. 50 000 euros, si vous voulez, je ne sais pas combien, une imprimante 3D, une MakerBot, c'est 3 000 euros, une laser cutter, c'est 10 000 euros. L'espace, c'est 30 mètres carrés. Le coût, il commence quand on détache un Fab Lab manager, quand on veut l'embaucher. Dans l'Open Lab qu'on a au CRI, tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole parce que les gens viennent chercher des espaces ou travailler autrement sur les projets étudiants. Donc ce que je pense, puis je vais m'arrêter là, c'est que la révolution interne du territoire universitaire, elle ne peut venir que de l'augmentation des degrés de liberté dont parlait François, et en particulier l'université contributive portée par les étudiants. Les étudiants n'ont pas la main, n'ont pas les clés de la machine, et ils s'ennuient, ils piaffent. On regarde les descriptions de Stanford et on se dit « Oh, c'est trop beau, mais ils ont plein d'argent, ils ont un territoire immense ». Oui, c'est sûr, mais qui nous donne la main aux étudiants, au sens de donner les clés, quoi, pour justement installer les projets, etc. Et ça coûte sûrement cher, parce qu'effectivement, il y a du mentorat, mais la MU, ça coûte cher aussi, les cotisations pour payer Apogée, ça coûte très cher aussi. Donc il y a des choix politiques et d'affectation récurrents, avec des charges fortes qui ont arrangé la vie de personne. Et donc il y a une question de prise de décision aussi dans l'ESR qui est peut-être pas assez collaborative, pas assez contributive, pas assez transparente, pas assez citoyenne. Et ça interroge aussi le rapport maintenant des établissements à l'État, d'une certaine façon.
Moi, ce que je voulais dire sur les moyens, c'est que... rien que là-dedans, il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. Donc en fait, on a aujourd'hui, par exemple, un laboratoire de poche. Hein, il y a un MOOC que Joël Chevrier vient de mettre sur FUN qui explique qu'est-ce qu'on peut faire avec ce laboratoire de poche en termes de physique, par exemple. D'accord ? Et les chercheurs, les physiciens de l'histoire des sciences auraient rêvé d'avoir quelque chose d'aussi puissant. D'accord ? Et effectivement, on peut faire énormément de choses juste avec ça. On est en train, par exemple, de travailler avec un certain nombre d'acteurs nationaux et internationaux à essayer de mobiliser les étudiants et de les inviter à utiliser ce genre d'outils pour utiliser au maximum le laboratoire de poche qu'ils ont et, par exemple, s'intéresser à ces problèmes de développement durable. Par exemple, vous vous intéressez à des problèmes de biodiversité, vous pouvez géolocaliser les problèmes de biodiversité. Vous voulez savoir combien il y a d'hommes et de femmes qui se sont exprimés dans la salle, vous pouvez télécharger l'application It Counts, qui a été développée par certains de nos étudiants et qui vient d'être soutenue par Google. Vous pouvez essayer systématiquement de savoir s'il y a des problèmes de biais de genre. J'aurais pas imaginé qu'on avait un laboratoire de poche, y compris pour mesurer les biais de genre. En fait, on peut mesurer la pollution, on peut mesurer énormément de choses avec ça. Donc quand on dit on manque d'équipement, on manque de ceci, on manque de cela, on manque d'imagination et de capacité à mobiliser les outils qui sont autour de nous. Et l'avantage de ces outils, c'est que si on a su les hacker littéralement, les manipuler et les transformer, alors on a des solutions qui peuvent s'étendre à l'ensemble de la planète. Et donc c'est ça qui est assez formidable aujourd'hui, c'est que même si effectivement une partie de ces innovations ont lieu dans des environnements qui sont plutôt plus privilégiés. D'abord, il y a toujours eu des environnements plus privilégiés. La question, c'est est-ce que ces environnements privilégiés jouent le jeu d'essayer de renvoyer l'ascenseur et d'inviter l'ensemble des acteurs à s'emparer de ce genre d'outils pour les amener un cran plus loin. Et en fait, ça coûte vraiment pas très cher de demander aux étudiants sortez votre téléphone, le cours va commencer. D'accord ? Et à partir de là, on peut faire énormément de choses.
Sophie Béjean.
Oui, je voulais réagir parce que effectivement, dans ces témoignages qui sont extrêmement intéressants, on se dit il y a des innovations, il y a des Fab Labs, il y a des expériences qui donnent vraiment envie. Et en même temps, dans les questions qui sont posées, on voit bien que la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces innovateurs et ces innovations puissent véritablement essaimer. C'est ce que vous avez dit. Alors, dans les propositions du rapport Stranes, parce que c'est vraiment une question qu'on a approfondie ensemble, on s'est dit il faut d'une part créer des nouveaux droits pour les étudiants. Et c'est pour ça que la proposition que Marc Guiraud évoquait tout à l'heure, qui est dans le rapport expérience à l'extérieur de l'université, dans le cadre d'un service civique, d'un stage, d'un séjour à l'étranger, ça serait déjà une façon de faire que les étudiants eux-mêmes soient porteurs et demandeurs et apportent dans l'ensemble des universités une transformation pédagogique. Et puis, l'autre question, c'est de se dire qu'il faut peut-être plus placer ces Fab Labs ou ces centres d'innovation pédagogique à côté du reste, mais au cœur, en fait, du système. J'ai eu la chance de présider une université au sein de laquelle il y avait un centre d'innovation pédagogique, au sein de laquelle s'est développé un IDEFI, un très bel IDEFI. Et pour autant, tout cela reste un peu à côté de l'université. Donc il faut une volonté politique forte pour placer ça au cœur de l'université. Il y a aussi dans les services de formation continue des gens qui ont la compétence de l'ingénierie pédagogique. Il y a des plateformes qui existent et qui portent des innovations numériques, mais elles sont toutes, d'une certaine manière, à côté de la politique stratégique des établissements. Alors, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a aussi des exemples inverses, mais il faut placer ces acteurs qui peuvent faire système plutôt au cœur que à côté.
N'étant ni enseignant-chercheur, ni universitaire, ni rien du tout, mais ayant été un peu étudiant, qu'est-ce que ça coûte, par exemple ? Je me souviens de cours de droit, certains passionnants, d'autres un peu moins. Qu'est-ce que ça coûterait quelle est la difficulté d'organiser un cours de droit en disant, voilà le problème en droit des affaires, vous avez un client qui doit intenter une action contre son fournisseur et chercher des informations, et ensuite, oui, bon, la classe, c'est de la classe inversée, c'est une forme de design seeking. Je pose la question, hein, est-ce que ça serait si compliqué de le faire systématiquement?
Non,
Non, mais d'accord, mais en travail dirigé, dans un groupe de 30 ou 50,
je pense qu'il faut changer de posture. Il faut déjà accepter. Je pense que les premiers blocages sont d'abord dans les têtes. Et après, tu voulais en parler, il y a des blocages administratifs, etc. Et je te laisserai en détailler. Mais il y a besoin de créer, moi, ce que j'appelle des cadres de liberté évolutif et fécond. C'est-à-dire un environnement dans lequel il y a un cadre qui reste le cadre de l'université, où on évalue et où on s'assure que ce qui est fait est de qualité. Parce qu'effectivement, comme le disait Sophie, il y a une différence entre le savoir et un certain nombre de choses qu'on peut trouver sur le web qui ne sont pas toujours de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus et il faut comprendre ce que c'est qu'une méthode scientifique et s'assurer qu'il y a quelque chose de qualité. Mais en même temps, donc, ce cadre, il faut évidemment le poser et les universités elles l'ont. Fondamentalement, le cadre, il est même plutôt trop rigide. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est rajouter de la liberté et permettre aux étudiants comme aux équipes de pouvoir s'investir différemment. Et à partir de là, il faut que ça puisse évoluer parce que chaque année, ça va être différent, parce qu'il y aura le monde change, parce que les étudiants ont d'autres envies, ont d'autres projets. Et évidemment, il faut que ce soit fécond parce qu'évidemment, il faut qu'on fasse avancer les choses, il faut que les projets des étudiants avancent. Et ça... Cette notion de cadre de liberté évolutif et fécond, hein, ça fait un acronyme qui fait clé, je pense que c'est une des clés pour faire avancer les choses.
Véronique.
Le gros problème, c'est l'accompagnement des professeurs. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est pas qu'ils veulent pas, mais quand vous avez mis déjà 5 ou un certain nombre d'années à mettre au point un cours... pour en arriver à un certain niveau de qualité aussi bien pédagogique, de satisfaction aussi des étudiants, parce que la satisfaction des étudiants joue de plus en plus un rôle important dans la compétitivité des différents établissements, et ben, demander en fait à faire de la classe inversée ou demander à faire du design thinking, ça demande un investissement temps pour le professeur, aussi bien au niveau de sa propre formation, sa changement de posture, mais aussi en fait de mettre mise en place du dispositif et de prise de confiance dans ce dispositif, et donc ça demande en fait un accompagnement du professeur qui doit être important. Et c'est pour ça que des fois c'est pas que les gens sont pas feignants, les gens veulent bien, mais ils prennent des risques énormes en changeant leur dispositif pédagogique. Et moi je ne travaille que sur ça en ce moment. C'est comment réussir à faire des formules safe, des formules où le prof, il va prendre, il faut qu'il prenne confiance et ensuite qu'il ne prenne pas de risque dans ce changement de posture radical. Sinon, entre des satisfactions à 70, 80, 90% sur son cours et le lendemain 20 ou 30% parce que les choses ne sont pas mises au point, et alors que lui, il y a passé à peu près 3 fois plus de temps que l'année précédente, vous avez bien compris que le réflexe,
petit
il est de
problème,
revenir
petit problème.
À ce qu'il a fait en fait initialement.
Et c'est à peu près la même chose. Et au bout, pour y retrouver quoi. J'ai envie de dire, il prend un énorme risque pour si même si ça marche, pour gagner quoi au bout. Alors ça évolue puisque on l'a vu aujourd'hui, ici même avec les prix PEPS, hein, mais quand même dans l'ensemble, on n'y trouve pas forcément grand chose au bout. Quoi.
Bon, et puis le secrétaire d'État hier a quand même dit que le sujet du statut, de la reconnaissance, etc., devait être traité. Qu'il n'y avait plus vraiment le choix et que il allait falloir y aller.
Avant en fait la reconnaissance, je pense qu'il y a juste accorder un peu plus de temps, en étant très concret, libérer en fait les professeurs, des professeurs qui voudraient faire, qui ont un projet de transformation pédagogique, devaient être libérés sur un certain nombre de cours, d'heures, de telle façon qu'ils aient juste le temps pour pouvoir le faire avec un accompagnement minimum, frugal, mais un petit accompagnement. Et là, ça changerait tout, parce que là, moi, mes profs, ils ne sont pas du tout libérés. Donc, comme ils adorent ça et qu'ils ont envie, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, à un moment donné, c'est juste, si on y croit, qu'on va jusqu'au bout et que l'établissement libère du temps pour que les gens aient le temps de mettre les choses au point.
Je voulais juste rebondir très rapidement sur la remarque de mettre certaines structures comme des Fab Labs au centre des universités. Je peux vous dire qu'il y a certaines entreprises qui l'ont bien compris et qui aujourd'hui sont prêtes à investir massivement, et par exemple au milieu du campus d'innovation dit Giant à Grenoble, d'investir massivement plusieurs millions pour poser leur Fab Lab au cœur du campus, et ils savent qu'ils en retireront vraiment une mine d'or. Donc oui, c'est un énorme enjeu.
dire que c'est ce qui est difficile, c'est pour le professeur tout seul. C'est ça qu'on veut dire. Bien sûr, tout le monde a envie de travailler en classe inversée, mais la charge ne doit pas peser sur l'individu, quoi. C'est des collectifs, mais on voit bien qu'on a besoin de nouveaux métiers. On a besoin de médiateurs, on a besoin de mentors professionnels, on a besoin que nouveaux acteurs entrent dans l'université. Pour le moment, on connaît bien les partenariats avec les entreprises, on connaît les vacataires dont on ne parle jamais, qui sont quand même la force de frappe majeure et qui intègrent énormément d'influence et qu'on reconnaît peu, qu'on valide peu. On les voit tout le temps comme des sous-traitants du vrai cours. Et il y a des nouveaux métiers qui sont apportés beaucoup par le numérique, des nouveaux besoins. Oui, je disais médiateur, femme manager, bien sûr, mais aussi, bien sûr, bon, il y a eu des poussées vers ces nouveaux métiers avec l'ingénierie pédagogique, dans les secteurs TIS. Mais on voit bien qu'il y a énormément de choses. Dans les Fab Labs, par exemple, la valeur ajoutée, elle vient de ce qu'on appelle le community building. Donc, les services comme qui commencent à s'orienter vers le community management, mais ça reste beaucoup autour de la vie, la communication externe, etc. Il y a une petite société qui s'appelle Fluicity, je crois, qui a commencé à développer des réseaux sociaux contributifs. C'est des étudiants qui ont fait ça à l'intérieur des universités. Il y a des tas d'étudiants qui pourraient travailler, comme il y en a qui travaillent dans les bibliothèques et autres. Peut-être qu'il y a du mentorat inversé à imaginer, comme faisait General Electric il y a 10 ans, d'aider les profs avec les étudiants, comme d'ailleurs plein de services vidéo l'ont fait. Il y a aussi peut-être une créativité dans la mobilisation des compétences internes. Ça ne dispense pas de moyens, mais il y a tout de même des énergies qui sont là, quoi.
Est-ce que tout ceci vous inspire, j'espère que ça ne vous laisse pas sans voix. Nous avons déjà eu quelques questions, mais il est temps encore, nous avons encore le temps pour, si vous voulez intervenir dans le débat, faites-nous signe. Elisabeth Kounil est là avec un micro, je peux moi aussi me balader. François.
Ce que je voulais dire sur les... Je vais reprendre ce que disait Sophie sur les choix stratégiques et financiers. Les universités font de la recherche sur quasiment tout, sauf sur elles-mêmes. D'accord ? Le système de l'éducation nationale, j'essaye désespérément de connaître le budget de R&D de l'éducation nationale. D'accord ? En proportion de son budget total, on parle de dizaines de milliards, c'est au mieux quelques millions. Et c'est évidemment epsilonesque. D'accord, en proportion. Donc on voit bien que si on était une entreprise, ou si on était même le ministère de la Santé ou le ministère de la Défense, tout un tas de ministères régaliens, ils font évidemment de la recherche pour faire progresser leur capacité à se saisir des enjeux de société et à comprendre les changements du monde et à être actifs. Donc si on n'investit pas dans notre capacité à réfléchir et à se réinventer, si effectivement on met cette charge uniquement sur les individus, on ne va pas y arriver. Il faut que collectivement, on prenne des décisions qui sont que si on n'a pas au moins quelques pourcents de notre budget, on demande que la nation mette 1, 2, 3% de budget dans la R&D. Bien sûr, très bien, mais commençons par nous-mêmes. Mettons ces quelques pourcents de budget dans notre propre R&D et réinventons-nous. Et à ce moment-là, on verra bien qu'énormément de gens pourront le faire, certains à 100% de leur temps, d'autres à quelques pourcents. On peut évidemment créer une dynamique très différente de celle qui existe aujourd'hui. Mais il faut accepter de se mettre en mouvement.
Est-ce que la nécessité d'augmenter le niveau des qualifications dans ce pays, et d'ailleurs peut-être dans toute l'Europe, est-ce que le problème des inégalités sociales d'accès à l'enseignement supérieur, est-ce que c'est un problème qui devrait être traité comme un problème super méchant?
Oui, c'est sûr. La reconnaissance aussi après du professeur, c'est justement la capacité de pouvoir expliquer à ses pairs lors d'un symposium, sous un format en fait de recherche, ce qu'il a fait. Et c'est, moi, je vois ça en termes de reconnaissance par ses pairs. Les gens ne sont pas dans une poursuite de leur ego et de leur reconnaissance personnelle. Quand ils contribuent à une transformation et qu'ils y croient, je crois. Mais c'est vrai que l'effet du multiplicateur, de pouvoir faire de la recherche sur notre pédagogie, c'est un très grand mouvement en fait de transformation qui a eu lieu aux États-Unis années 50, années 60, pour pouvoir exactement ce que François en fait a expliqué, et de pouvoir donner en fait un nouveau souffle à la transformation pédagogique. Et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en train d'écrire plus de 250 pages en recherche justement sur ma pédagogie pour essayer en fait de lancer le mouvement. Et sincèrement, je crois énormément à cet effet démultiplicateur. Si on pouvait mettre quelques petites dizaines, enfin c'est vraiment des petites dizaines des voix de milliers d'euros, enfin juste pour aider à cristalliser cette initiative.
Tu parles des problèmes d'inégalité sociale. Je pense que c'est crucial, d'accord. Et c'est crucial, on est le pays le plus inégalitaire de tout l'OCDE, alors qu'on écrit liberté, égalité au fronton de toutes nos écoles. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment un problème majeur, un problème super méchant, mais ce qu'il faut, c'est qu'on se retrousse tous les manches et qu'on se dise qu'on peut tous contribuer à ça. Mais il faut mettre des budgets, d'accord. Il faut investir dans les ZEP, il faut s'assurer qu'il y ait moins d'inégalités avant même d'arriver à l'université, ça c'est le premier point. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à l'université, il faut les accompagner et continuer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, que quand on repense même les petites classes, on peut s'inspirer des démarches de l'université. Pour moi, la force de l'université, c'est apprendre par la recherche. Aujourd'hui, dans plus d'une centaine d'établissements, il y a des enfants qui apprennent par la recherche. D'accord. Pourquoi ? Parce que cette capacité de se questionner, elle est fondamentalement présente chez les enfants. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord. Des chercheurs de Berkeley ont démontré qu'on est tous nés chercheurs. D'accord. Donc on a tous ça dans le sang, la curiosité, la capacité à observer le monde, la capacité à expérimenter, la capacité à s'émerveiller de choses qui nous surprennent. C'est vrai chez les tout-petits. Hein, vous en avez tous vu autour de vous, vous l'avez tous été, et vous l'avez, j'espère, conservé, cette curiosité, cette volonté d'aller de l'avant. Si on sait accompagner les enfants dans ce process, on peut voir des choses extraordinaires. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on met les gens dans une posture de questionnement, d'accord ? Et donc on peut revenir à Socrate, on peut revenir à tout un tas de choses. Mais on a besoin de s'interroger, y compris sur notre propre mode de fonctionnement. On ne s'interroge pas suffisamment sur « Ah ben on fait ça depuis des centaines d'années, donc on va continuer à faire des cours en amphi parce que ça se fait, quoi. »
Et juste pour préciser, donc, le mouvement pédagogique aux États-Unis est né justement pour pouvoir essayer de répondre aux inégalités sociales et de donner aux moyens aux professeurs de pouvoir transformer leur pédagogie pour pouvoir intégrer ces inégalités.
Et, quand on parle d'innovation pédagogique, on est gêné devant nos collègues parce que, par exemple, si je parlais il n'y a pas longtemps avec un collègue sociologue à Nanterre et il me dit mais de quoi tu parles, viens dans mon amphi et tu verras les bac pro en première année qui ne savent pas lire et pas écrire, etc. Donc on reste sans voix, on dit ah ben j'ai de la chance parce que moi j'ai pas ça, j'ai pas connu ça. Et lui dit, sa position que je vais caricaturer un petit peu, c'est de dire ces gens-là n'ont rien à faire à l'université, je ne sais pas m'adresser à eux. Et on me demande quelque chose qui finalement est une déqualification qui me fait très mal. Je ne peux littéralement plus travailler et je suis tout seul. Et c'est vrai, dans la situation où il est, c'est vrai. Et on ne va pas nier ces réalités. On voit par exemple, autour du grand mouvement La France s'engage, un incroyable tissu associatif d'engagement. Et il y a tout l'enseignement populaire, l'éducation associative, l'éducation informelle, les mouvements sciences-société, l'Institut du service civique, qui ne demandent pas mieux que de... Je crois qu'on pourrait avoir des sortes de... Je ne sais pas si je vais appeler ça des propédeutiques, mais des activités qui soient... Je ne sais pas comment... C'est quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Il n'y a pas d'accueil. On sait qu'il doit venir dans les universités et il n'y a réellement pas d'accueil. Il y a un accueil formaliste, fonctionnel, et on ne sait pas faire. Alors c'est peut-être une sorte de diverticule immense de l'université qui devrait être tourné vers... on peut pas. Et souvent on se dit, quand on regarde l'ensemble du système éducatif, on nous a raconté souvent comment tout est figé, tout le monde se regarde en statut. On est en maternelle, attention, c'est la dernière année de maternelle, au CP ça va chauffer. C'est fini le travail en îlot, on se remet le siège. On est dans le primaire. Attention, hein, dernière année du primaire, la sixième, tu vas voir, tu vas être détruit en entier, etc. Et on remonte comme ça. Et au lycée, on fait apprendre par cœur les explications de texte pour le bac ou des choses comme ça pour l'oral, parce que attention. Et donc il n'y a plus aucune formation de l'esprit, etc. Et puis ils arrivent en première année en université, on leur dit mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là ? Tu sais pas réfléchir, tu sais pas chercher, tu sais pas trouver une info, tu sais pas rédiger. Alors l'université, il y a une puissance de tétanisation de l'ensemble. Et on dit toujours faut repartir à la maternelle, en primaire, mais peut-être qu'il faut défiger l'université aussi. Ça aiderait beaucoup tous les autres.
Merci, Sophie Béjean.
Je voulais réagir sur ce que vient de dire Sophie Penn. D'abord parce que bon, ça fait un mois que je suis rectrice de l'Académie de Strasbourg et où j'ai pu découvrir de plus près, même si j'en avais déjà eu les informations, mais là je l'ai découvert concrètement, que le système éducatif dans son ensemble, il a commencé à bouger. Et en maternelle, en primaire, au collège et au lycée, ça n'est plus cette image que tu viens de décrire et que peut-être eux-mêmes ont sur le monde universitaire, hein, donc, qui lui-même a bougé et n'est plus tout à fait l'image du prof cours magistral qui a ses 800 étudiants. Alors, ça c'est simplement pour dire que le monde bouge aussi avant l'université, et heureusement. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est est-ce que nous allons vraiment faire face à un accueil massif d'étudiants et est-ce que tout le monde doit aller à l'université ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant la tentation que pourraient avoir certains du malthusianisme, c'est-à-dire on va dire ceux-là, ils n'ont rien à faire à l'université et on va les laisser à l'extérieur. D'abord, ce serait un vrai enjeu pour la société parce que ceux-là dont on parle, par exemple, ceux qui sont en bac professionnel, ce sont ceux qui ont aussi les origines les plus modestes. Les écarts sociaux de diplomation, je n'ai pas cité les chiffres tout à l'heure, mais c'est 35 points d'écart entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre. Donc il y a quand même des écarts qui sont très larges. Et je ne dis pas qu'il faut absolument que les bacheliers professionnels aillent à l'université. D'ailleurs, en ce moment, les pourcentages sont malgré tout assez faibles. Mais en tout cas, ils ont des aspirations d'acquérir un niveau d'enseignement supérieur plus important. Et il faut y répondre parce que c'est aussi un enjeu de réduction de ces inégalités sociales. Alors, comment faire ? S'appuyer sur la recherche. Et finalement, les enseignants-chercheurs, ce qu'ils savent mieux faire, ce qu'ils savent bien faire, c'est chercher. Et peut-être qu'il faut qu'on transpose la façon dont on fait fonctionner l'activité de recherche vers l'activité d'enseignement. C'est pour ça que le comité Stranes a proposé de mettre en place des équipes pédagogiques à l'instar des équipes de recherche, c'est-à-dire responsabiliser avec éventuellement un budget ou en tout cas des activités à gérer et des moyens pour le faire, et avec la responsabilité pas seulement de transmettre des connaissances sur un cours, mais d'accompagner une cohorte d'étudiants, une promo d'étudiants, un groupe d'étudiants vers la réussite. Et vers la réussite, c'est-à-dire vers l'acquisition à la fois de connaissances, compétences et de compétences transversales, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis de le faire aussi en se disant que cette capacité à chercher, à poser des problèmes, à les résoudre, à avancer par essai-erreur, qui est le propre du scientifique, si on porte ça à tous les niveaux de formation, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas scinder la première partie de l'université, la licence et puis la suite, en se disant ben, on fera de la recherche vraiment en master, en doctorat, mais en licence c'est pas nécessaire. Si, il faut au contraire s'appuyer, et c'est ce que François disait très bien, hein, sur cette curiosité peut-être innée de chacun des jeunes, de chacun de nous, pour amener des jeunes qui n'ont peut-être pas les clés pour comprendre les besoins et les attentes de l'enseignement supérieur, de l'université, vers ces savoirs-là, vers ces compétences-là. Et c'est une des pistes qui devrait être utilisée dès la première année.
Merci. Écoutez, comme nous sommes toujours dans le respect de notre emploi du temps, je vous propose d'en rester là pour cette table ronde. Je me livre non pas à la synthèse comme hier, puisque Sophie Béjean vient de le faire finalement, et je l'en remercie. En revanche, je vous livre quelques mots-clés que j'ai retenus des échanges. D'abord, sortez votre téléphone, le cours va commencer. Puisque hier, nous avons eu quand même l'inverse. Certains nous ont dit que des enseignants disaient « Fermez vos téléphones et vos écrans, le cours va commencer. » Donc, je remarque ça. Nous avons tous appris un nouveau concept et que nous retiendrons, je pense, qui est celui des problèmes super méchants. Donc, merci à Véronique pour cela. J'ai aussi noté que le web peut servir à transformer le savoir en conneries ou les conneries en savoir. Merci à Sophie Penn, qui nous a appris aussi, enfin en tout cas à moi, qu'il pouvait y avoir des résistants au web, des îlots de résistance dans certains établissements. Bon, voilà. Je retiens à nouveau l'idée aussi d'open portfolio de François. Je retiens que les entreprises peuvent investir des millions dans des Fab Labs au sein des universités, comme l'a dit Sylvie. Le sujet de l'accueil des néo-étudiants, des bacheliers pro et autres dans les universités est un sujet central. Le développement des Fab Labs, l'accompagnement des enseignants, chercheurs aussi, qui ne demandent qu'à s'engager, mais voilà, qui ont besoin d'un accompagnement. La recherche, l'importance de la recherche est... Il n'est pas anodin que l'un des prix PEPS, une des catégories du prix PEPS, ait été recherche en pédagogie. Et je signale au passage que vous avez peut-être vu arriver incognito, simplement pour écouter la fin de cette table ronde et écouter les pitchs du tour de l'innovation en 180 secondes qui va suivre, Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, qui est parmi nous. Je pense que si on avait besoin d'une preuve supplémentaire de l'implication au plus haut sommet de l'État, de l'intérêt de l'institution avec un grand I. Cette preuve est là. Merci, Monsieur le Ministre. Bravo à tous.